Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je vous retrouve pour cette belle émission Mission Vision. Et je suis très contente aujourd'hui parce que je vais avoir deux beaux invités et on va parler évidemment de passionnés, le sport, des jeunes dans la fleur de l'âge. Donc je suis vraiment contente, ça va être très intéressant de les découvrir. Mais pour commencer, on va aller retrouver Annie Perrault, psychologue. Et aujourd'hui, on va parler du traumatisme. Souvent, on entend parler des traumas, mais en lien avec l'handicap visuel, la perte de vision. Donc, on va avoir une belle émission ensemble. Et je vais rejoindre Annie au bout du fil. Allô, Annie!
Bien, bonjour!
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça se passe pour toi?
Oh, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente. Là, on s'est parlé hier, hein?
Oui.
Donc, là, tu as collaboré à l'écriture d'un livre. Tout de suite, quand tu m'as parlé, je connais l'autrice, Pascale Brion. Donc, quand on est dans le milieu de l'intervention, on la connaît bien. Et là, tu as collaboré, dans le fond, tu as écrit un chapitre, mais c'est un livre en lien avec le traumatisme. Donc, on peut décortiquer le traumatisme de mille et une façons. Là. Donc, justement, avec Pascale Brion, souvent, j'ai fait des formations là, en lien avec quand on est professionnel de la santé en intervention, donc la fatigue de compassion et tout ça, qu'on peut vivre vraiment des grands bouleversements. Mais là, toi, tu vas venir nous parler du traumatisme en lien avec l'handicap visuel, donc une perte de vision, parce que souvent, le trauma est associé à quelque chose qu'on va voir. Donc, comment qu'on peut définir, finalement, pour commencer, le traumatisme?
Bien, le traumatisme, en fait, on peut le diviser en deux catégories. On peut le diviser en termes de critères diagnostiques au niveau du post-traumatique. Donc, il y aurait un événement qui va être très, très marquant où il y aura une peur associée au fait de perdre la vie ou d'avoir notre intégrité, se voir menacée.
Oui.
Donc ça serait vraiment la définition en termes de post-traumatique. Mais sinon, les traumas, ça peut nous arriver de toutes sortes de manières. Puis là, on va l'interpréter plus à partir de la réaction que nous aurons face à un événement qui va être trop intense ou très intense, ce qui fait que l'événement a du mal à s'intégrer comme étant un événement banal.
OK.
Donc, ça laisse des traces à l'intérieur de nous. Puis on peut penser à toutes sortes d'événements qui peuvent laisser une trace importante. Ça peut être le décès d'un proche, même si le décès n'est pas tant traumatique, cette perte-là peut être une source d'inconfort et de malaise très, très important qui fait que c'est difficile à intégrer. Ça peut être la perte, justement, d'un organe qu'on a dans notre corps, d'une maladie qui survient, qui s'est pas prévue dans le plan de match. Donc, quand ça laisse une trace importante au niveau émotionnel ou corporel, c'est-à-dire qu'on a des réactions qui se font de façon automatique puis involontaire, où on a des rêves, où on a des cauchemars plutôt, où on a des sensations qui nous envahissent, mais on peut dire que ça peut-être laisser une trace traumatique.
Donc, le traumatisme, souvent, on associe ça au choc post-traumatique. Mais est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le choc post-traumatique qu'on peut entendre? Tu sais, même moi, j'avais fait une formation, ils appelaient ça l'état de stress post-traumatique. Et les traumas, comme tu parles, comme exemple, je perds la vue et je deviens aveugle, donc je développe un traumatisme. Est-ce qu'il y a comme une distinction entre les deux?
Ben oui, sur le plan diagnostique, on mettrait une distinction. Certains professionnels de la santé vont dire que certains traumas pourraient relever ou en fait implanter un choc post-traumatique, alors que ça ne définit pas tellement dans les critères diagnostiques comme tels. Ici, j'ai pas tant envie de m'enfarger d'un fleur du tapis.
Non, mais je comprends qu'il y a quelque chose en lien avec un diagnostic. Donc, pour moi, c'est pas la même chose. Tu sais, je peux me diagnostiquer toute seule. Moi, je sais que j'ai des traumatismes de mes opérations et d'avoir perdu mon œil. Mais j'ai pas un papier qui dit diagnostic. Je le sais que j'ai un traumatisme.
Exactement.
Par rapport au fait que quand je repense à l'événement, Je le sais qu'il y a des traces qui sont assez incontrôlables, oui, au niveau de revivre. Des vraiment dans mon corps, là, de revivre. Il y a des moments où est-ce que ça n'a aucun rapport. Exemple, je suis en train de me faire masser. J'ai la tête dans l'espèce de petit bain, là, le petit coussin là, du ouais, visage. Et ça coupe un peu ma respiration naturelle et ça me ramène à quand je me faisais opérer, mais alors que l'on me met un plastique dans le visage. Donc, oui, je sais concrètement qu'il y a un traumatisme, mais j'ai pas un diagnostic officiel. Fait, je comprends, ce serait un peu là qu'on pourrait aller, là.
On pourrait discuter très longtemps.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis quand on perd la vision, justement, autant qu'on perd la vision, mais aussi qu'on est aveugle. Est-ce que si on est aveugle, une cécité complète, le traumatisme va s'imprégner différemment?
Mmh. Alors, là, ce qui est intéressant ici avec la vision étant très impliquée dans les réponses d'orientation. Typiquement, chez la population générale, s'il y a un danger qui survient, un bruit soudain, ben, l'organisme va se tourner pour voir ce qui se passe. Mais si la vision est impactée, cette réponse d'orientation-là ne se fait pas de la même façon chez quelqu'un qui a une vision qui est perdue ou qui n'a jamais été. Oui. L'orientation risque, il faudrait que je fasse une étude élargie là-dessus.
Oui.
La réponse d'orientation va être vraiment différente. Le corps va peut-être se tourner vers l'objet ou le bruit pour se situer, mais le sens de la vision ne peut pas être sollicité. Donc, il faut que la personne, dans sa réponse d'orientation, se fasse un sens de d'où est le danger.
OK. Ah oui, OK, parce que je sais qu'il y a aussi souvent en lien avec, tu sais, d'avoir vu quelque chose, d'avoir, comme exemple, j'ai été témoin d'un accident de voiture.
Oui.
Bon, bien, ça
se... l'a vu.
L'a vu, exact. Ouais. Mais ça se pourrait que je ne l'aille pas vu, mais que j'aille entendu le bang. Je sais à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose, il y a un accident, c'est dramatique. Oui. Mais là, mon corps, ça se peut qu'il regarde même pas, tu sais, dans le sens de la direction. C'est un peu ça que tu dis, comme si finalement je vais vivre quelque chose de côté alors que c'est devant moi que ça se passe.
Ou derrière moi. Ouais,
ou derrière. OK.
Ouais.
Ça fait...
Mais l'impact dans le corps, la réponse du système nerveux sera semblable. C'est mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer?
Oui.
Est-ce que c'est très dangereux, c'est grave, c'est très, très grave? Est-ce que je suis en danger?
Oui.
Donc, en fait, une réponse d'orientation, c'est lorsque ça arrive quand il y a quelque chose qui se passe autour, mais ça peut être aussi tout juste avant que quelque chose se passe. Donc, on peut avoir une réponse d'orientation qui serait interne.
OK.
Le petit feeling de quelque chose d'étrange.
Oui.
Et j'ose croire que chez les personnes avec un déficit visuel, cette réaction-là, cette réponse d'orientation-là est peut-être un petit peu plus développée.
Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant parce que, exemple, moi, souvent, j'associe, je suis une femme en partant, donc je me retrouve souvent dans des situations où est-ce que je pourrais me sentir agressée. Par rapport à, comme exemple, je suis dans le métro et là, il y a moins de monde ou il y a trop de monde. Il y a des moments comme ça que ça se passe vraiment comme si je me sens en danger. Mais c'est pas vraiment visuel. Des fois, c'est vraiment plus dans le ressenti.
Dans le sens, il y a quelque chose qui... Il y a une énergie qu'on perçoit.
Oui.
Il y a un changement subtil au niveau des sons autour de soi.
Oui.
Et ça, c'est bien fait. Dans le sens où ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a toujours du danger puis qu'on est en danger quand on a cette réaction-là, mais c'est comme un indicateur. C'est comme si tout d'un coup, le vent tourne puis on le perçoit.
Oui.
Ouais.
Et on le voit aussi, il y a beaucoup d'hypervigilance. T'sais, moi, je sais que les personnes en situation de handicap visuel, on est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'hypervigilance. Mais je sais aussi que dans le traumatisme, il y a ça aussi, là, l'hypervigilance. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un, justement, qui a déjà un handicap visuel, donc est déjà confronté dès qu'elle sort de chez elle, hypervigilance pour son environnement qui est complètement pas contrôlé, il y a pas, tu sais, il y a vraiment quelque chose dans le corps devient un peu comme naturellement avec une espèce de méfiance interne.
De vigilance.
De vigilance, ouais. C'est ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait plus d'hypervigilance?
Bien, en fait, il faudrait aussi là étudier la chose, mais je dirais que, étant donné qu'il y a un sens qui est moins accessible,
ouais,
il y a un relais qui se fait par les autres sens pour dire, OK, moi, j'ai pas accès à toutes les informations visuelles comme quelqu'un ordinaire,
mm-hmm,
ce qui fait que comment je vais avoir accès aux autres informations en me promenant dans un environnement qui est soit sécuritaire ou soit inconnu.
Ouais.
Soit connu ou soit plus menaçant.
Mm-hmm.
Les sens se mettent en action. Puis c'est bien fait, c'est super bien fait. Maintenant, comment on peut moduler la vigilance,
oui,
chez quelqu'un qui a une perte de vision ou qui a jamais eu la vision, comment on peut moduler la vigilance? Bien, ça s'entraîne, ça aussi.
Mm-hmm.
Ça s'entraîne, on peut entraîner notre corps à réduire une vigilance qui peut s'être installée au fil de nos expériences, au fil des activités de la vie quotidienne.
Ouais.
Mais l'entraîner en se régulant davantage dans des environnements qui sont connus, sont stables, sont calmes. Puis là, on peut réduire cette espèce de vigilance qui prend trop de place, des fois qui est hyper activée.
Oui.
Voilà.
Et est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là, ça serait de prendre plus notre temps, respirer, tu sais, oui, de calmer finalement cette espèce de stress-là dans le corps. Et déjà, quand on relâche les tensions, on est déjà moins en hypervigilance.
Ça peut avoir cet impact-là sur la vigilance. Donc, le fait de s'arrêter, de mesurer ce qui se passe autour,
mm-hmm,
OK, puis de faire la rétroaction avec le corps, tu vois, comment on peut se permettre de dire, OK, ici, maintenant, ça va, là.
Mm-hmm.
Je peux continuer mon exploration.
Oui, c'est ça.
Alors, parce que l'exploration est un système d'action qu'on porte tous.
Oui.
Quand il a été peut-être tronqué par une perte de vision, ben faut explorer avec les autres sens, puis avec confiance, avec des expérimentations qui vont être porteuses de succès.
Mmh.
Mais lorsqu'il y a des impacts négatifs ou des situations désagréables, notre système à la fois d'orientation puis notre système d'exploration peuvent encaisser des coups.
Oui.
Puis donc, il y aura des réactions qui viennent avec ça qu'on peut tenter de rassurer, calmer, améliorer. Mais dès qu'il y a des expériences qui sont un petit peu plus traumatisantes, ça se peut qu'on aura à travailler un petit peu plus fort pour mettre les réponses du corps, pour les orienter de façon à ce qu'on ne soit pas toujours hyperactivé,
mm-hmm,
puis qu'on puisse se réguler davantage. Ouais.
Et une des façons, ben, c'est justement d'aller consulter quelqu'un qui, ouais, va nous aider, ouais, au niveau soit de la psychologie, ouais, ou différents intervenants, finalement, professionnels, ouais, de la santé. Annie, rappelle à quel endroit qu'on peut retrouver là, ton site Internet, puis par le fait même, là, le livre aussi que tu as collaboré.
Alors, le livre, c'est un livre surtout destiné aux intervenants qui s'appelle « Mieux soigner le trauma », mm-hmm, sous la direction de Pascal Brion.
Oui.
Il y a différents chapitres qui touchent différentes méthodes de traitement du trauma.
Oui.
Ça peut être intéressant. Sinon, on peut me trouver à travers les internets,
oui,
avec Annie Perrault, psychologue. Alors, voilà.
Mais merci beaucoup, Annie. Ça a été un plaisir, comme à chaque fois. Puis ça m'a déjà donné une idée là, pour une prochaine chronique. Là, j'aimerais ça qu'on décortique davantage l'hypervigilance.
Oui, exactement. C'est un bon, on a fait un bon point,
oui,
de départ.
Oui, c'est ça, exactement. Mais je te souhaite une belle journée.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt. Bye-bye. Et là, je vais accueillir deux beaux jeunes de 23 ans, Nathan Tunis et Thomas Raymond.